contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. 13e année, la résistance au nihilisme. Aujourd'hui, dialectique de mai 68.
Merci d'être là pour cette 13e année. Merci à vous qui êtes là ce soir. Cette 13e année aurait dû prendre la suite de celle que j'ai consacrée à mai 68, mais il fallait fonctionner un petit peu en rhizome. Donc j'ai fait une espèce de pas, un écart, si vous voulez, pour parler de Günther Anders l'an dernier, de Hans Jonas et de Hannah Arendt, mais vous voyez bien comment on va raccrocher les wagons avec Lefebvre, Marcuse, Debord et Van Eghem. Il s'agit de penser dialectiquement mai 68, et j'appelle penser dialectiquement faire de telle sorte que nous puissions éviter la pensée binaire qui consiste à dire qu'il faut être pour mai 68 ou qu'il faut être contre mai 68, ce qui n'a pas grand sens. Mai 68 a eu lieu, et il s'agit de le penser en dehors de l'idéologie. Et il faut aller voir ce qui s'est dit et fait, et c'est ce que je vous propose pendant plusieurs séances, parce que l'intitulé de cette année, c'est la résistance au nihilisme. Le nihilisme, c'est l'absence de valeur. On ne va pas rentrer dans le détail, je reste assez nietzschéen sur la définition de ce terme, mais c'est l'absence de valeur, c'est l'incapacité à trouver une boussole. Et les quelques séances qui nous permettront d'examiner mai 68, Vincennes, le structuralisme, les nouveaux philosophes, tout ça devrait nous permettre de voir comment on en est arrivé là et comment un certain nombre de philosophes ont résisté, un certain nombre, évidemment, on peut pas les voir de manière générale combien ils sont nombreux, mais j'ai été obligé d'en retenir évidemment quelques-uns. On parlera donc de Jean Kelevitch, de Robert Misrahi et de Michel Dufresne. J'aurais aimé parler de Clément Rosset, mais je pense qu'on n'aura pas forcément le temps, parce que cette année est la dernière année, non pas de l'Université populaire, mais la dernière année de la contre-histoire de la philosophie. Penser dialectiquement, c'est revoir un petit peu les choses comme elles se sont dites ou comme elles se sont faites, c'est-à-dire pas du tout dans la perspective de la philosophie de l'histoire classique, hegelienne, néo-hegelienne, post-hegelienne, mais d'une certaine manière marxiste. Il y aurait un sens de l'histoire et tout serait progrès dans le sens de l'histoire. Mais que faire du regret? Que faire de la négativité? Que faire de ce qui va mal? Je pense qu'il faut aussi donc en finir avec une lecture marxiste ou néo-marxiste de l'histoire et penser plus généralement et plus globalement avec ce que Spengler appelle la morphologie. Alors Spengler, c'est mal vu, ça passe pour un philosophe nazi ou une pensée nazie, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Mais les choses sont ainsi faites, tout le monde parle du déclin de l'Occident, personne ne l'a lu ou très peu l'ont lu, et on ne va pas voir même au-delà du déclin de l'Occident pour voir qu'il y a une proposition formelle pour lire l'histoire, et c'est cette proposition formelle que je vous propose, c'est-à-dire il y a des formes dans l'histoire, il y a eu l'Égypte, il y a eu la Grèce, il y a eu Rome, eh bien il y a eu aussi l'Europe avec une date de naissance, et puis avec un déclin, puis avec une probable disparition, et avec l'état dans lequel nous nous trouvons, et mai 68 s'inscrit dans cette morphologie des civilisations. Ça n'est donc pas une révolution politique, mai 68, ça n'a pas eu lieu, cette révolution politique, vous le savez bien, le général de Gaulle a été conforté dans son pouvoir, et on voit, avec un peu de recul, ou un peu de hauteur, et c'est ce que je vous propose, comment on peut penser tel ou tel événement. Je propose qu'on puisse lire mai 68 dans une perspective morphologique qui nous permettrait de savoir comment ce moment s'inscrit, non pas dans l'histoire du XXe siècle, mais dans l'histoire de la civilisation occidentale. Je voudrais, pour essayer de penser cette période, cette longue période, on dira de mai 68 jusqu'à aujourd'hui, un demi-siècle, je voudrais pouvoir m'appuyer sur un philosophe, sociologue, qui s'appelle Jean-Pierre Le Goff, et qui a écrit un texte extrêmement intéressant, qui s'appelle « Du gauchisme culturel et de ses avatars », et qui est paru en septembre-octobre 2013 dans la revue Le Débat. Jean-Pierre Le Goff n'est pas un homme de droite, Parce que vous savez qu'aujourd'hui, alors que les repères sont perdus sur ce terrain-là, la gauche défend des idées de droite, la droite défend des idées de gauche, l'extrême droite défend les mêmes thèses que l'extrême gauche sur un certain nombre de sujets. Donc effectivement, ce sont plutôt des invitations à ne pas penser que des invitations à penser ou à bien penser cette bipolarisation. Il procède, Jean-Pierre Le Goff, de ce qu'il appelle l'anarcho-situationnisme. C'est une étiquette qui n'est pas une étiquette. Être situ en mai 68, être anarcho ou anarchiste, ça veut tout dire. Mais enfin, ça veut dire qu'effectivement, il est dans le plaisir pris à la fête qu'est mai 68. Et puis, il deviendra par la suite maoïste. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Autant on a l'aspect dionysien au départ, le goût de la fête. Autant par la suite, on a le plaisir apollinien, le goût de l'ordre. Ce n'est pas exactement la même chose. On a eu l'occasion de parler un petit peu de ce qu'a été le maoïsme et des effets qu'il a produits. Je ne reviendrai pas sur ce sujet-là, mais ça, c'est le trajet de Jean-Pierre Le Goff, qui se trouve déniaisé par Claude Lefort, qui à l'époque était professeur à Caen, et il a suivi les cours de Lefort, après avoir été le gauchiste qu'il dit. Il le dit dans un texte qui s'appelle « La gauche à l'épreuve », 1968-2011, il dit s'être engagé, citation, « sans demi-mesure dans l'activisme groupusculaire de l'extrême-gauche après mai 68 ». C'est donc quelqu'un qui a vu comment mai 68 fonctionnait de l'intérieur, qui, le temps passant, pense mai 68 et fait une proposition qui n'est pas une proposition réactionnaire, comme il en existe un certain nombre, puisqu'il écrit un livre un petit peu plus tard qui s'appelle « Mai 68, l'héritage impossible » en 1998, et que ce livre est publié aux éditions de La Découverte, c'est-à-dire chez un éditeur qui ne passe pas pour être un éditeur de droite. Il utilise donc cette expression « gauchisme culturel ». Et de fait, c'est une expression qu'il prend soin de définir, il précise ce qu'il faut entendre par là, et on pourrait dire qu'il y a gauchisme culturel quand la négativité consubstantielle à mai 68 survit à mai 68. C'est la négativité de mai 68 dans l'après-mai 68 qui conduit à un certain nombre de choses, des faits, des effets, des livres, des pensées, la justification de la pédophilie, la justification des drogues dures ou un certain nombre de thèses comme celle-ci. Jean-Pierre Le Goff donne 8 définitions, 8 entrées qui nous permettent de savoir ce qu'est le gauchisme culturel. Il nous dit que c'est d'abord une prime donnée à l'idéologie sur le réel. C'est-à-dire qu'on ne voit pas le réel, mais on a les lunettes qui nous font voir le réel d'une certaine manière. Lecture de droite, lecture de gauche, lecture d'extrême droite, lecture d'extrême gauche, mais fausse lecture, bien sûr. Il faut lire directement le réel, et c'est difficile à faire quand, effectivement, il y a une idéologie qui s'interpose entre soi et le réel. Deuxième chose, déconsidération de l'adversaire. On ne le respecte pas, on ne respecte pas ses thèses, il est négligé a priori, lui, sa pensée, la subtilité de sa pensée, et on le méprise a priori. Troisième chose, l'usage de méthodes violentes. Refus du dialogue, quatrième point. Incapacité à argumenter, cinquième point, attaque ad hominem, les attaques personnelles donc, le recours aux insultes, et parmi ces insultes, fascistes, hitlériens, staliniens, ayatollahs, réactionnaires, conservateurs, antisémites, nazis, tout ce qui fait que vous n'avez pas l'intention de discuter les thèses d'un nazi. Donc évidemment, on ne discute pas les thèses d'un nazi. Un nazi, ça s'insulte, ça se massacre, ça se méprise, mais ça ne s'analyse pas, ça ne se pense pas même. Donc effectivement, l'insulte dispense de penser. Et puis, le dernier point, le recours cynique à tout ce qui permet de gagner. Un opportunisme, si vous voulez, sophistique ou rhétorique, c'est-à-dire peu importe qu'on conduise bien sa pensée, par ordre, en définissant des concepts, en faisant des phrases correctes, en tâchant d'argumenter, il suffira juste d'être violent, agressif, d'être de mauvaise foi, de faire des comparaisons, en pensant que comparaison, c'est raison. Et on dira, oui, mais c'est comme avec le nazisme, oui, mais c'est comme avec, etc. Ce qui fait qu'on ne pense pas, on ne pense plus. Donc d'abord, une idéologie de l'intimidation et du mépris d'autrui. Impossibilité de dialoguer véritablement. La gauche se morcelle, nous dit Jean-Pierre Le Goff, et elle est dans l'expectative. Les militants, les sympathisants, les électeurs sont dans l'expectative. Qui voter, pour qui voter, quoi, qui dit quoi. La gauche, nous dit Le Goff, et c'est un fait, renonce à la gauche en 1983. 1981, pour ceux qui s'en souviennent, c'est effectivement la possibilité pour la gauche d'exister réellement. Les communistes sont au pouvoir avec un programme commun et il y a de vraies idées de gauche. Abolition de la peine de mort, réduction du temps de travail, augmentation des congés payés, etc. Effectivement, il y a un régime de gauche à partir de mai 81. 83, c'est un tournant dit de la rigueur, mais c'est aussi un tournant idéologique, tournant métaphysique. C'est à partir de ce moment-là que la gauche voit qu'elle ne sait pas, ne peut pas, ne veut pas, vous verrez, c'est vous qui mettrez le mot qui convient, mais changer la vie. Elle s'était proposée d'activer le slogan d'Arthur Rimbaud, changer la vie, et on ne voit plus véritablement ce qui distingue la droite de la gauche quand cette gauche-là se rallie aux thèses libérales et aux thèses d'une Europe libérale, en nous disant qu'il n'y a pas d'autre Europe que l'Europe libérale et que ne pas aimer l'Europe libérale, c'est ne pas aimer l'Europe tout court. C'est une idéologie de nous faire croire que ne pas vouloir de l'Europe libérale, c'est être un anti-européen, donc un nationaliste, donc un vichiste. Vous connaissez la formule, c'est la façon de procéder. C'est à partir du moment où cette gauche cesse d'être de gauche parce qu'elle défend un libéralisme qu'elle partage avec une grande partie de la droite, qu'elle considère qu'il faut cliver pour que les gens pensent qu'il y a tout de même une différence entre la droite et la gauche et que ça ne peut pas être la même chose que de voter Chirac ou Mitterrand. Et il s'agit donc de cliver à partir de sujets sociétaux. Et Jean-Pierre Le Goff dit qu'il y a des sujets de société qui permettent de faire, artificiellement me semble-t-il, mais enfin ça fonctionne et ça fonctionne bien, qui permettent de dire qu'il y a à gauche des façons de penser sur un certain nombre de sujets, mariage des homosexuels, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, etc., etc., qui font qu'effectivement, quand on est de gauche, il faudrait défendre ces idées-là. Et si on ne défend pas ces idées-là, c'est qu'on est de droite. Et on a la possibilité, à partir du sociétal, de laisser croire que la gauche et la droite, ça n'est pas la même chose, même si leurs programmes économiques sont les mêmes. Il y a, nous dit Jean-Pierre Le Goff, quatre grands moments qui nous permettent de voir comment cette gauche-là investit les sujets de société. Premier temps, le corps et la sexualité. Deuxième temps, la nature et l'environnement. Troisième temps, l'éducation des enfants. Et quatrième temps, la culture et l'histoire. Et vous verrez que c'est une façon de faire qui est efficace. Le corps et la sexualité, nature et environnement, éducation des enfants, culture et histoire. Et de fait, on va retrouver, à partir de l'analyse de Jean-Pierre Le Goff, les sujets qui sont aujourd'hui les débats clivants du moment. Sur la question du corps et la sexualité, eh bien, l'homosexualité, le mariage pour tous, les familles monoparentales, la transsexualité, procréation médicalement assistée, gestation pour autrui, euthanasie, effectivement, on pense, là encore, là aussi, que la droite a un avis sur ce sujet et que la gauche en a un autre. Le deuxième temps, la nature et l'environnement. Les sujets du moment s'enracinent effectivement dans cette thématique. Développement durable, réchauffement climatique, réchauffement de la planète, le tri sélectif, les comportements éco-responsables, les principes de précaution, on retrouve ce qui fait le souci ou les soucis de l'écologie qui a fini par être transparti. Puisqu'à une époque, l'écologie faisait sourire tout le monde. C'était l'époque des candidats qui faisaient 1% et qui... Avec Dumont faisait rire parce qu'il arrivait avec son pull rouge et une pomme sur la table alors qu'on avait des vrais clients importants, sérieux, qui eux arrivaient costumés et cravatés. Et puis ben, c'est fini, Louis Dumont ne fait plus rire puisque l'écologie, elle existe à droite, elle existe à gauche, qu'il y a des écologies diverses et multiples, qu'il y a des écologies radicales, qu'il y a des écologies plutôt light, allégées, qu'il y a des écologies rurales, puis des écologies urbaines, enfin que l'écologie est entrée dans la politique et dans la politique politicienne, pour le meilleur, il faut effectivement défendre la planète, et parfois pour le pire, puisque ce sont souvent des variables d'ajustement dans la politique politicienne. Troisième temps, l'éducation des enfants, ce qui permet de réfléchir aux problèmes d'aujourd'hui, ce qu'on appelle le pédagogisme, c'est-à-dire le souci des méthodes plutôt que le souci des contenus, plutôt le souci de comment faut-il transmettre plutôt que le souci de ce qu'il faut transmettre. Les pleins pouvoirs donnés à des théoriciens des sciences de l'éducation avec l'oubli que ça peut se passer autrement que comme les livres le disent. On découvre aussi qu'il y a des oppositions contemporaines entre l'éducation nationale et l'instruction publique. Est-ce que l'école doit éduquer les enfants? Est-ce qu'elle doit instruire les enfants? Est-ce qu'il faut choisir? Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir l'éducation et l'instruction? Qu'est-ce que ça signifie, éduquer? Est-ce que ce ne sont pas les familles qui doivent éduquer les enfants alors que l'école devrait instruire? Question évidemment qui se pose aujourd'hui dans une école dont on sait qu'elle produit 18% d'illettrés à l'entrée de la sixième, de la classe de sixième. L'enseignement du genre, l'enseignement de l'écologie à l'école, j'y reviendrai, la lutte contre l'homophobie ou la laïcité dans les collèges, toutes questions qui sont devenues des questions d'éducation à l'école, qui se substituent parfois à la logique de l'instruction. Sur le dernier point, la culture et l'histoire, Jean-Pierre Le Goff renvoie aux questions qui effectivement nous animent aujourd'hui, devoir de mémoire, concurrence mémorielle, le compte des cadavres, est-ce que il y a un génocide ou des génocides? Est-ce que le colonialisme est un génocide? Vichy, Pétain, bien sûr, la traite négrière, le colonialisme, la guerre d'Algérie, toutes ces questions sont pensées à nouveau frais, et là encore, on va préciser. Jean-Pierre Le Goff nous dit que ce gauchisme culturel est hégémonique à gauche, largement dans l'appareil du Parti socialiste et largement également dans l'État. Ce gauchisme culturel fait la loi dans la plupart des médias traditionnels, nous dit-il, la grande presse, les hebdos, les quotidiens, les journaux, la radio, la télé, écoutez France Inter, vous n'entendrez pas la différence. Mais il dit aussi quelque chose d'intéressant, que la droite souscrit aussi à ce genre de discours. Et c'est parfois intéressant quand on rentre dans sa voiture et qu'on a laissé brancher la radio la veille, on entend quelqu'un parler, et on ne sait pas s'il est de droite ou s'il est de gauche. Et il tient un propos et on se dit « Ah, c'est intéressant ça ». Puis quand on est de gauche, on découvre que c'était un propos tenu par un homme de droite. On se dit « Mince, pourquoi est-ce que c'était intéressant ?» Et alors qu'il y a cette confusion généralisée, effectivement, une partie de la droite souscrit à ce gauchisme culturel. Donc vous voyez que ce sont plutôt des facilités intellectuelles, je dirais, qui sont présentées comme des pensées élaborées, alors que la plupart du temps, ça relève d'une doxa ou d'une opinion générale sur laquelle on ne s'interroge pas, on ne questionne pas cette doxa. On est élevé là-dedans, qui nous est présentée comme une vérité, comme une évidence, qui nous est présentée d'ailleurs comme la morale, comme le bien, et comme le politiquement correct. Et effectivement, le travail du philosophe consiste à interroger cette vulgate, cette doxa, pour savoir si c'est vrai, si c'est faux, si c'est partiellement vrai, si c'est partiellement faux, comment ça marche, si c'est juste, si parfois l'adversaire n'a pas raison sur nous, sur certains plans. Savoir écouter, donc, quand on est un homme de droite, un homme de gauche, ça marche pour les femmes aussi, mais, ou quand on est athée, savoir écouter un chrétien, savoir écouter celui qui ne pense pas comme nous en écoutant ses thèses, en discutant ses thèses, en ne les méprisant pas. Ce gauchisme culturel ne semble plus séparer la droite et la gauche, mais séparer les élites et le peuple. Et l'on voit que le peuple de droite et de gauche a souvent tendance à penser la même chose, pendant que les élites de droite et de gauche ont souvent tendance à penser aussi la même chose, mais ce sont deux choses opposées. C'est-à-dire qu'on se retrouve, quand on fait partie des élites, les intellectuels, les députés, les sénateurs, les gens de pouvoir, les directeurs de presse, on défend la même idéologie. Peu importe que ce soit de droite ou de gauche, on fait semblant de s'opposer, mais finalement, globalement, on défend à peu près la même chose. Pendant que le peuple, lui, ne pense pas forcément la même chose, même s'il n'a droit, la plupart du temps, qu'à ces thèses-là qui lui sont présentées comme des vérités un petit peu partout. Je vais, dans les développements qui vont suivre, utiliser des expressions, les expressions de Jean-Pierre Le Goff, et il parle par exemple d'un nouveau domaine de l'égalité. Et il nous dit: l'égalité, jadis, elle était pensée sur le terrain du droit, de la loi, mais sur le terrain politique. Et là, d'un seul coup, elle cesse d'être pensée sur le terrain culturel pour être pensée sur le terrain naturel. C'est ce qui nous permet d'aborder, par exemple, l'égalité à nouveau frais à partir du mariage gay, le mariage homosexuel, qu'on n'appelle pas gay ou homosexuel, mais qu'on appellerait pour tous. Et ce mariage homosexuel, eh bien, théoriquement, à gauche, on est pour, au nom de l'élargissement des droits, et puis à droite, on est contre, sous prétexte que on détruirait d'abord la famille, ensuite la filiation. C'est ce qui se dit, mais c'est pas forcément ce qui se pense. Il y a des gens qui, à gauche, pensent effectivement qu'il faut garantir la famille ou sauver la filiation, et qui s'opposent au mariage homosexuel, non pas par homophobie, non pas par détestation des homosexuels, mais simplement parce qu'ils ont une conception de la famille, une conception de la filiation, qui n'est ni fasciste, ni nazi, ni vichiste, ni pétiniste, ni identitaire, mais qui est une conception qu'il faut penser. De même, avec la droite, il y a des gens qui considèrent qu'effectivement, on doit pouvoir considérer que des homosexuels doivent pouvoir se marier, puisqu'il y a une égalité devant la loi, que la loi permet de se marier, eh bien, elle devrait permettre à quiconque de pouvoir se marier, donc des individus de même sexe. Jean-Pierre Le Goff nous dit que très souvent, les hommes politiques sont devenus désormais des militants, enfin les chefs d'État plutôt, sont devenus des militants. Quand Mitterrand est arrivé au pouvoir, il était porté par la gauche, il était porté par le Parti socialiste, et il est entré dans le costume de président, faisant savoir qu'il avait des obligations désormais, qu'il était le président de tous les Français, c'est-à-dire y compris de ceux qui n'avaient pas voté pour lui. Donc il était aussi le président de la droite. Et ça n'était pas un président de la seule gauche, de la moitié de la France. Et effectivement, sur ces questions de filiation, d'homoparentalité, de procréation médicalement assistée, de gestation pour autrui, etc., etc., Jean-Pierre Le Goff soulève cette idée que nous ne réfléchissons pas en termes d'histoire, ou en nous prolongeant dans la durée, ou en termes métaphysiques, en termes philosophiques, mais que souvent nous réfléchissons en termes idéologiques. On fait plaisir à son électorat. Il s'agit d'être élu, réélu, et on fait plaisir à un électorat à qui on a fait savoir que la vérité, c'était ça. Donc on lui défendrait sa vérité, et il faudrait qu'il soit reconnaissant, puisqu'on lui défend sa vérité, on lui permet à sa vérité, d'ailleurs, on permet à sa vérité d'exister. Donc effectivement, la prochaine fois, il faudra s'en souvenir au moment des élections. Et de fait, il n'y a pas forcément souci de l'intérêt général ou du bien public, mais plutôt souci des intérêts particuliers. Pour le dire plus brièvement, la République explose. La res publica, la chose publique, c'est fini, c'est terminé. Le souci républicain, c'est terminé. On va entrer dans des logiques de communauté, de revendications communautaires et communautaristes. Le mariage homosexuel nous a été présenté comme un progrès, sans qu'on nous dise pourquoi c'était un progrès. Jean-Pierre Le Goff relève des expressions. Il s'agissait d'un grand mouvement d'émancipation, d'une grande avancée vers l'égalité, disaient les militants. Et il constate que ce combat à gauche remplace le combat pour le peuple, pour les ouvriers, les combats pour la libération des pauvres ou des gens modestes, et même les combats anti-impérialistes. Il y a eu des combats anti-impérialistes qui, dans les années 50, ont motivé la gauche ou les gauches, et qui permettait effectivement de penser la gauche à partir de ces combats-là, eh bien tout ça disparaît. Plus de soucis du peuple, plus de soucis du prolétariat, plus de soucis des opprimés, et plus de soucis non plus d'aller lutter contre l'impérialisme international ou planétaire. Cette cause du peuple, elle disparaît. Ça n'est plus le peuple qui serait le moteur de l'histoire, c'est fini. Le prolétariat, le prolétaire n'est plus le moteur de l'histoire. Mais la poignée, nous dit Jean-Pierre Le Goff, des LGBT, lesbiennes, gays, trans et bi et trans. Il s'agit donc de changer le moteur de l'histoire. Ça n'est plus le peuple qui fait l'histoire, mais c'est effectivement une minorité sexuelle agissante. Le mariage homosexuel remplace le rôle que jouait jadis la Révolution. Jadis, les inégalités étaient sociales et on pouvait y remédier. Il suffisait juste de changer de société. Le juste est entre guillemets, bien sûr. C'était la vieille logique rousseauiste et on changeait la société, on changeait les hommes et c'était parfait. Aujourd'hui, l'inégalité, elle est devenue naturelle, dit Jean-Pierre Le Goff. Les homosexuels qui sont privés de paternité à cause de leur physiologie, de leur biologie, considèrent qu'il s'agit d'une inégalité. Que faire de cette inégalité ? Si effectivement les hommes veulent pouvoir faire des enfants alors qu'ils ne le peuvent pas comme les femmes le peuvent et qu'on considère que cette inégalité, eh bien, c'est à l'État de résoudre, de la supprimer, effectivement, on change de paradigme et ça n'est plus exactement la même chose. Jadis, nous dit-il, la gauche voulait changer l'histoire. Aujourd'hui, la gauche veut changer la nature. Voilà pourquoi il pense que le mariage homosexuel va déboucher sur la gestation pour autrui ou sur la procréation médicalement assistée, puisque c'est le processus qui est ainsi enclenché. Il estime qu'il y a un paradoxe à voir cette gauche qui jadis s'était battue pour supprimer le mariage, les combats féministes qui faisaient du mariage une prostitution, qui considéraient qu'il fallait faire des enfants si on voulait, quand on voulait, comme on voulait, qui se retrouvent aujourd'hui à défendre le mariage. Le mariage qui n'était pas bon pour les hétérosexuels devient bon quand il s'agit des homosexuels. Le mariage homosexuel est devenu une vertu pour la gauche, c'est-à-dire que le mariage devient une vertu pour la gauche, alors que pendant très longtemps, c'était une vertu pour la droite. Deuxième thématique abordée par Jean-Pierre Le Goff, ce qu'il appelle l'antifascisme revisité. Là encore, il nous dit « faisons de l'histoire plutôt que de l'idéologie ». L'idéologie consiste à dire que la gauche était résistante et la droite collaborationniste. Les choses sont ainsi, l'affaire est réglée, et on imagine qu'un homme de droite qui aurait résisté ou un homme de gauche qui aurait collaboré, ça aurait été plutôt étrange. Et de fait, il y a une invitation à penser ce que les socialistes et les communistes ont fait, non pas ce qu'ils ont dit, mais ce qu'ils ont fait dans l'histoire, pour qu'on puisse savoir que l'antifascisme n'a pas forcément été associé a priori aux socialistes ou encore moins aux communistes. Léon Blum, par exemple, refuse de donner des armes à la gauche ou aux républicains espagnols qui veulent lutter contre le franquisme. On connaît l'histoire. La chambre qui a été élue en 1936, qui est une chambre de gauche, a massivement voté les pleins pouvoirs à Pétain. Les fonctionnaires et les préfets qui avaient été nommés par le Front populaire, sauf un seul, ont juré fidélité au maréchal. La SFIO défendait à l'époque l'Algérie française. Quant à Mitterrand, ministre de l'Intérieur et puis de la Justice à l'époque de la guerre d'Algérie, il a envoyé 45 militants du FLN à la guillotine à l'époque. Donc l'antifascisme à gauche, ça reste à prouver. L'anticolonialisme à gauche, du moins chez les socialistes, ça reste à prouver aussi. Chez les communistes, même chose. Je ne m'attarderai pas sur le pacte germano-soviétique, j'ai déjà eu l'occasion de le faire, mais pendant 2 ans... Parce que Hitler et Staline ont signé un pacte, enfin Ribbentrop, eh bien, les communistes français sont dans une politique de collaboration avec l'ennemi nazi et occupant, sous prétexte qu'ils ont les mêmes ennemis, les juifs, le capital, la bourgeoisie, les anglais, les gaullistes, etc., etc. Donc pendant 2 années, le Parti communiste n'est pas plus résistant que ça. L'affaire Guy Môquet, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler, qu'on nous présente comme un héros de la résistance, qui a été effectivement fusillé par les nazis parce qu'il était en prison. Il était en prison non par fait de résistance, mais parce qu'il a distribué des tracts qui appelaient à la collaboration avec l'occupant nazi. Donc effectivement, mythologie aussi avec le Parti communiste qui défendait l'anticolonialisme, puisque le 8 mai 1945, à Guelma, quand légitimement un certain nombre d'individus algériens font la fête pour célébrer la libération et demandent leur part, qui est une demande légitime, eh bien il y a des coups de feu, il y a des morts, et que d'une certaine manière, certains font remonter le début de la guerre d'Algérie à ce moment-là. Eh bien, le journal de l'Humanité titre le 8 mai 45 qu'il s'agit de provocation hitléro-trotskiste. C'est dans l'Humanité. En septembre 1960, le Parti communiste français critique encore le manifeste des 121 qui appelle à l'insoumission pendant la guerre d'Algérie. Ça veut dire effectivement que fin 1960, le Parti communiste n'est toujours pas dans un combat d'émancipation anti-impérialiste. C'est un petit peu plus tard que le ralliement se fait au FLN, quand les choses sont quasiment terminées. Il y a donc une vulgate, et cette vulgate fait qu'il y a eu des antifascistes et des fascistes, et qu'il y a eu des antifascistes de droite et de gauche, et des fascistes de droite et de gauche, et que les choses sont visibles, et que Jean-Pierre Le Goff donne même des noms. Il nous dit qu'il y a eu des résistants de la première heure qui ont été de droite, catholiques, monarchistes, aristocrates, nationalistes, par exemple Daniel Cordier, que tout le monde connaît, qui a été le secrétaire de Jean Moulin, et qui à l'époque était à l'Action française, et quelques-uns qui sont issus de la Cagoule, qui était un mouvement de droite extrême, d'extrême droite, comme André de Wavrin, dit le colonel Passy, qui était chef du bureau central des renseignements et d'action, qui était les services secrets de la France libre, le colonel Rémy, qui était connu à une époque, parce qu'il a écrit quelques ouvrages qui lui valaient la une des journaux, qui était le premier agent du général de Gaulle dans la France occupée, Guylain de Bénouville, chef du mouvement combat, ou François Mitterrand, résistant en mars 1944, mais qui sont des individus qui sont issus de l'extrême droite. L'antifascisme, nous dit Jean-Pierre Le Goff, est aujourd'hui utilisé à tout bout de champ. On mène des combats antifascistes, il y a des antifas, etc. Et Le Goff nous dit il y a de l'antifascisme quand il y a un fascisme historique. Le fascisme historique, il s'est arrêté avec les fascismes historiques, à l'évidence. Alors même s'il y a des historiens pour nous dire aujourd'hui que Vichy n'était pas fasciste, on peut imaginer que tout de même, je serais plutôt tenté de dire que il y a un fascisme français à Vichy, mais qu'on ne peut pas dédouaner Vichy de relever du fascisme. Il y a eu bien sûr le nazisme, il y a eu bien sûr Mussolini jusqu'à la Grèce des colonels, et ceux qui résistaient à ce fascisme historique, en risquant la prison, leur vie, étaient vraiment les antifascistes. Et dire aujourd'hui qu'on est antifasciste quand on lutte contre le gouvernement de François Hollande ou contre le gouvernement de Nicolas Sarkozy, c'est un excès de langage qu'on ne devrait pas se permettre, nous dit-il. Cet antifascisme est donc revisité. Et il fait la généalogie de l'emploi du mot fasciste comme d'un vocabulaire insultant, en disant « voilà, maintenant on insulte les gens, on les traite de fascistes ». Il nous dit que c'est le Parti communiste qui a commencé à utiliser le mot fasciste pour discréditer quiconque n'était pas lui. Idéologiquement, ça relève du marxisme-léninisme. Le fascisme, c'était la forme autoritaire que prenait la bourgeoisie pour maintenir son ordre menacé par le prolétariat. Les bourgeois avaient peur de la révolution prolétarienne, ils se militarisaient et ça donnait naissance au fascisme. Fascisme égale capitalisme, antifascisme égale anticapitalisme. Eh bien, c'est une idéologie, elle est fautive, nous dit Jean-Pierre Le Goff, parce que être antifasciste, c'est résister à des gens qui sont réellement des fascistes. Il interroge également ce qu'il appelle un antiracisme nouvelle génération. Et cet antiracisme, il renvoie à l'analyse de SOS Racisme dans les années 80. Et il s'appuie sur des textes de Jacques Attali, verbatim, qui étaient les fameux comptes rendus que Jacques Attali rédigeait quand il terminait sa journée comme conseiller spécial auprès de François Mitterrand. Et il explique comment, effectivement, l'Élysée a spécifiquement contribué à la création de SOS Racisme comme une machine de guerre pour couper la droite en deux, donc toujours pour permettre d'asseoir le pouvoir de François Mitterrand, en instrumentalisant un certain nombre de communautés, d'individus, effectivement. C'est Pierre Berger qui finance, grand homme de gauche, avec, comme chacun sait, avec les cautions à l'époque d'Yves Montand, de Signoret ou de Coluche. Mitterrand vient de renoncer à la gauche. Il s'agit là encore de chercher un sujet clivant qui permettra de dire « la gauche est antiraciste, la droite est raciste ». Si la droite pose la question de l'identité, de l'immigration ou de l'islam, c'est qu'elle est fasciste, c'est qu'elle est raciste, c'est qu'elle est xénophobe. Donc on ne pense pas à ces questions-là et il faut une société multiculturelle. Et on demande à d'anciens trotskistes, et Mitterrand a beaucoup recyclé des anciens de mai 68, un certain Julien Drey, un certain Harlem Désir, de fabriquer cette machine de guerre pour utiliser, instrumentaliser l'antiracisme de façon à faire de telle sorte que, à gauche, il puisse y avoir une hégémonie idéologique qui rendrait possible les élections, les réélections triomphantes de François Mitterrand. La preuve est donnée en 1985, puisque Mitterrand instaure la proportionnelle et que 35 députés du Front National entrent à l'Assemblée nationale, ce qui permet effectivement de casser la droite républicaine en deux. Jean-Pierre Le Goff écrit de SOS Racisme qu'il a introduit le principe racial et le communautarisme ethnique qu'il affirme combattre. C'est-à-dire qu'on rompt avec la tradition républicaine. Là encore, il n'y a plus de possibilité d'utiliser le mot république, républicain, qui est connoté négativement. Et on va parler des juifs, des beurs, des maghrébins, des blacks, qui revendiquent des droits chacun pour eux, pour leur communauté. C'est le début, nous dit Jean-Pierre Le Goff, d'une expression qui est la fameuse expression du « en tant que juif, en tant que beurre, en tant que ceci, en tant que cela ». Moi et ma communauté, d'abord, le reste, peu importe. L'antiracisme devient donc une idéologie de substitution à l'ancien messianisme révolutionnaire. On voulait la révolution et là, on la présente plus comme telle. Il s'agit de présenter l'avènement non plus du communisme, mais du communautarisme. On abandonne le communisme, qui faisait l'économie de toutes ces choses-là, de toutes les revendications personnelles, privées ou communautaires, au profit justement d'un nouveau modèle de société. Les ouvriers ne sont donc plus le moteur de l'histoire, mais ce sont les immigrés qui le deviennent. Et on voit et on verra dans la généalogie de ce gauchisme culturel à partir de ce qu'on appelle la French Theory, la théorie française, c'est-à-dire le rôle qu'auront joué ou que jouent les intellectuels à cette époque-là, les Deleuze, les Foucault, les Guattari, etc., pendant que Jean-Paul Sartre s'effondre. Jean-Paul Sartre était celui qui, justement, quoi qu'on en pense, et j'ai jamais été très tendre avec Jean-Paul Sartre, mais du moins, on peut lui reconnaître que, même s'il s'est beaucoup trompé, il a défendu le prolétariat, il a défendu les ouvriers, il a défendu les gens modestes, il a défendu la cause du peuple, disons-le comme ça, et bien cette cause du peuple, elle disparaît avec des nouveaux intellectuels qui considèrent que le peuple n'est plus le problème et qu'on ne doit plus s'en soucier. Il faut une fameuse France black, blanc, beurre. Et c'est le nouveau paradigme, c'est le cosmopolitisme qui nous est présenté comme un modèle de substitution à la République. C'est le nouveau paradigme. Cette, euh, cette gauche, en 2010, très précisément, avec le fameux think tank qui s'appelle Terra Nova, fait circuler une note. À l'époque, cette gauche-là en est arrivée à défendre un certain Dominique Strauss-Kahn. Mais cette note intérieure fait savoir au Parti socialiste qu'il faut ne plus du tout se soucier du prolétariat, des ouvriers, des pauvres, des gens modestes, que ces gens-là soit ne votent plus, soit, quand ils votent pour le Front National et qu'ils sont perdus pour la gauche. C'est-à-dire que ceux que la gauche a abandonnés, elle les abandonne à nouveau en disant que ces gens-là les ont quittés. Alors que tout a été fait, effectivement, pour qu'on oublie ce peuple qui, de fait, s'est retrouvé ensuite dans les bras du Front National. Il y avait une fiction qui était la fiction gaullo-communiste fabriquée par le général de Gaulle, qui est peu suspect d'avoir été vichiste ou trouble pendant l'occupation, le 18 juin témoigne, et qui, lui, à la Libération, a besoin d'une unité nationale pour pouvoir remettre la France debout. Donc pas question pour le général de Gaulle de demander aux gens s'ils ont été vichistes ou pétinistes, pas question non plus de leur demander s'ils ont été collaborationnistes pendant les 2 années qu'ont duré le pacte germano-soviétique. Et de fait, le général de Gaulle et les communistes inventent un roman national qui est le roman de la France résistante. Ça vaut ce que ça vaut, c'est utile pour gouverner le pays, ça fabrique du refoulement, se refouler ressurgit un jour, et il peut ressurgir sous forme terrible, sous la forme d'un certain Jean-Marie Le Pen, quand Jean-Marie Le Pen réapparaît ou apparaît sur la scène nationale. Mais ce roman d'une France résistante n'est pas détruit au profit d'une vérité, mais au profit d'un nouveau roman qui est le roman de la France collabo. Dès lors, la France n'était plus la fille des Lumières ou des droits de l'homme. On n'avait plus inventé les droits de l'homme ou la Révolution française, mais la France était devenue celle qui avait produit Vichy, Pétain, la collaboration, le colonialisme, la guerre d'Algérie. La nation devenait un gros mot. La nation, c'était le nationalisme, et au Bundestag, en 1995, après avoir fait l'éloge du courage d'un certain nombre de soldats allemands, François Mitterrand, pendant la Deuxième Guerre mondiale, François Mitterrand nous fait savoir que le nationalisme, c'est la guerre. Qui peut vouloir la guerre? Personne. Donc on ne peut pas vouloir le nationalisme, donc on ne peut pas vouloir la nation, donc exit la nation. Autre thématique abordée par Jean-Pierre Le Goff, la révolution culturelle de l'écologie. Il nous dit que le productivisme a ravagé la planète, qu'il y a un procès de la société capitaliste qui est fait, elle est consumériste, elle est scientiste, elle est technophile, et les écologistes annoncent la fin de l'humanité. Ils critiquent Descartes, la raison, les lumières, le marxisme, et ils utilisent la peur et l'irrationnel pour parvenir à leur fin. On a eu l'occasion de voir avec Hans Jonas et le principe responsabilité qu'effectivement, il y avait ce que le philosophe appelait une heuristique de la peur, c'est-à-dire un usage théoriquement philosophique de la peur. Ça veut dire que les philosophes renoncent à la raison, à la réflexion, à l'intelligence et font peur. On s'appuie sur la peur en pensant que ça suffira pour convertir les gens au discours qu'on a l'intention de faire passer. Une nouvelle fraternité, nous dit Le Goff, apparaît à ce moment-là, qui est une fraternité écologiste, à partir de la pratique écologiste. La décroissance, l'autarcie des productions, les nourritures biologiques qui sont produites ou consommées, les achats, qui sont des achats éco-responsables, l'économie durable, les transports en commun, l'énergie renouvelable. Jean-Pierre Le Goff, et je ne souscris pas à toutes les analyses de Jean-Pierre Le Goff, entendons-nous bien, je vous ai fait savoir que c'était une analyse qui, en tant qu'elle secouait les paradigmes habituels et les idéologies du moment, méritait qu'on y réfléchisse, mais Jean-Pierre Le Goff nous dit que la science, la technologie, ont tout de même contribué à autre chose que ça, qu'il y a effectivement de quoi récriminer sur un certain usage de la science, mais que la science a rendu possible aussi la technique, la fin de la paupérisation, bon, je dirais pas forcément la fin, mais du moins les réductions des écarts dans la paupérisation, ou des grands écarts. Elle permet aussi, nous dit Jean-Pierre Le Goff, un progrès social. Autre thématique, l'éducation des enfants. Les écologistes ne croient plus à la révolution vieille méthode, avec le grand soir et la possibilité d'investir les appareils idéologiques d'État qui permettraient le lendemain matin de changer la vie et d'instaurer le pouvoir de ceux qui l'auraient pris. Les écologistes croient que on ne changera pas la mentalité des adultes, mais qu'on peut changer, ou du moins fabriquer, la mentalité des enfants. Les adultes, ils ont eu l'habitude de consommer, de dépenser, d'accumuler, et ils sont dans le consumérisme, mais si on éduque les enfants, alors ils pourront eux-mêmes effectuer cette révolution. Il s'agit donc au plus tôt d'éduquer ou d'inculquer des comportements éco-responsables et d'enseigner le développement durable, puisque ces questions-là entrent, citation, dans le socle commun des connaissances et des compétences à l'école. C'est-à-dire qu'on exige qu'à la sortie de l'école, ce soit des acquis. Donc acquis qui relèvent plutôt d'une éducation que d'une instruction, on faisait la distinction tout à l'heure, et d'une idéologie plutôt que d'une pédagogie. Il s'agit de faire savoir non plus comment on pense, il n'est plus question d'apprendre à penser, mais d'apprendre ce qu'il faut penser. Jean-Pierre Le Goff précise que la télévision duplique ce discours, mais également les dessins animés, les livres pour enfants. On culpabilise les parents de leur comportement passé. Les parents auraient été des irresponsables, des pilleurs, des gaspilleurs, des assassins de la planète, et ce pour faire du profit, uniquement du profit et de l'argent. Et donc on enseigne la pureté, on enseigne la propreté, on enseigne à sauvegarder la planète, et il s'agit de devenir prioritairement un bon citoyen qui va plus tard sauver la planète. Ce que l'école apprend, c'est effectivement à devenir un autre individu, un autre être. On fabrique un homme nouveau, un être nouveau. Cette éducation à l'écologie, elle se double d'une éducation à la sexualité. Pendant très longtemps, à l'école, il n'a jamais été question de sexualité. C'était une affaire personnelle et privée qui concernait les familles. Les familles enseignaient l'éducation sexuelle à leurs enfants ou n'enseignaient pas, mais on n'enseignait pas ces choses-là. On a commencé à faire de l'éducation sexuelle. Et moi, je me souviens d'une éducation sexuelle qui passait par les mammifères. C'était une façon scientiste, positiviste d'aborder la question. Elle est désormais abordée de manière idéologique. C'est-à-dire que le divorce, qui était exceptionnel à une époque, a cessé d'être exceptionnel. Il est devenu plus ou moins la règle. Il s'agit donc de le justifier et de considérer que les parents mariés qui ont fait des enfants, qui n'ont pas divorcé, sont d'une certaine manière, ils existent bien sûr, mais qu'il y a plus de divorces, de familles monoparentales, et il s'agit désormais de déculpabiliser également l'homosexualité. L'hétérosexualité est présentée comme une hypothèse, comme une possibilité. Pourquoi pas être hétérosexuel? Mais il y a aussi l'homosexualité, et puis il y a aussi le transgenre, etc., toutes choses qui sont enseignées également à l'école. Jean-Pierre Le Goff signale que des titres ont été prescrits à l'école, et donne ces titres, il dit c'est dans des listes, et je vais vous dire tout à l'heure ce que sont les textes officiels qui donnent ces listes, mais il parle d'un livre de Béatrice Boutignon, « Tango à deux papas et pourquoi ?» pour l'interrogation. Nathalie Cizaret et Daphné Degé, « Mes mamans se marient », Ophélie Texier, « Jean à deux mamans ». Il nous dit, et j'ai eu l'occasion d'en parler à une époque et de soulever quelques réprobations dans cette enceinte, mais que la théorie du genre est l'idéologie de l'éducation nationale. Il s'appuie sur un texte dont je vous donne les références. Il s'agit de la Convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes dans le système éducatif 2013-2018. Il s'agit donc d'un texte programmatique. C'est une citation. « La notion de genre si controversée y figure en toutes lettres. » Et il cite. Donc citation du document officiel. « Les savoirs scientifiques issus des recherches sur le genre, savoirs scientifiques issus des recherches sur le genre, les inégalités et les stéréotypes doivent nourrir les politiques publiques. » Il est écrit également qu'il faut, citation, « donner aux élèves, étudiants, les outils nécessaires pour mieux appréhender le traitement du genre dans les médias. » Il s'agit également, citation encore, de « rendre visibles les recherches sur le genre et les experts, experteux avec le « entre guillemets », et les expertes à travers la mise en place de recensements nationaux. Il s'agit également de réaliser un travail de vulgarisation et de diffusion des recherches sur le genre. » Il ne s'agit pas encore à l'époque, pour l'instant, de former des enfants ou d'en parler directement aux enfants, mais il s'agissait à l'époque de former les formateurs. Ce sont juste des textes qui émanent de l'éducation nationale. Il s'agit de former les formateurs à la théorie du genre pour qu'un jour les formateurs puissent enseigner aux enfants la théorie du genre sous prétexte de féminisme. Qui peut s'opposer au féminisme? Qui peut ne pas vouloir être féministe? Donc si vous voulez être féministe, il faut souscrire à la théorie du genre. Non, on peut être féministe en pensant qu'il y a d'autres façons de défendre le féminisme que de défendre l'effacement biologique des genres pour considérer que le genre est une construction conceptuelle, une production livresque, c'est-à-dire une affaire de concept, et les partisans de la théorie du genre ont raison, et les opposants à la théorie du genre ont raison aussi. Il faut donc interroger cette construction, ça me paraît évident. Il faut donc éviter les stéréotypes, ça me paraît évident. Il faut mener un combat féministe, ça me paraît aussi évident, mais c'est pas la théorie du genre n'est pas forcément le passage obligatoire. Jean-Pierre Le Goff conclut en disant que le ministère travaille avec les associations LGBT qui interviennent auprès des enfants dans le cadre scolaire. Et Jean-Pierre Le Goff écrit « Pourquoi les associations homosexuelles et pas les autres ? Point d'interrogation. Qui peut croire qu'elles n'ont pas d'esprit partisan ? Point d'interrogation. » Donc de fait, on peut aussi imaginer que tous les parents pourraient avoir droit de citer auprès des enfants et pas seulement une poignée d'individus qui disposent d'une théorie qui, comme toutes les théories, peut être récusée ou qui mérite au moins l'examen. Quand on voit dans les textes ministériels qu'on parle de chiffres, qu'on parle de science, on nous parle de vérité, à l'évidence. Personne ne croira que la science est une idéologie. Autre commentaire effectué par Jean-Pierre Le Goff sur les postures identitaires et les mécanismes de déni. Il nous dit que le gauchisme culturel est pluriel dans ses références comme dans sa composition. Il peut faire coexister des idées et des attitudes qui, il y a peu de temps encore, apparaissaient contradictoires et incohérentes. La gauche culturelle, le gauchisme culturel, du moins, nous dit Jean-Pierre Le Goff, se propose, et c'est une citation, d'attaquer des préjugés, des stéréotypes ancrés dans l'inconscient collectif. C'est ce que dit la convention interministérielle. La convention interministérielle nous dit donc que ce contre quoi il faut se battre, c'est contre l'inconscient des gens. C'est-à-dire que vous ne savez pas que vous êtes sexiste, phallocrate, misogyne, mais vous l'êtes. C'est l'inconscient collectif. Donc on renvoie à un concept qui est celui de Jung, qui fut un temps nazi, ceci dit en passant, en considérant que, eh bien, il y a un inconscient collectif dont on est coupable, dont on est victime plutôt, pardon, et cet inconscient collectif, il vous fait croire des choses qui sont fausses, alors que la vérité mérite, elle, d'être enseignée par des gens qui ont travaillé sur ce sujet-là, mais on ne dialogue pas avec des malades. On est malade quand on est déterminé par un inconscient fautif, quand on est fabriqué par une communauté ou une collectivité qui nous a infligé son inconscient collectif, puisque cet inconscient est funeste, eh bien, il faut le soigner. Il faut guérir les gens. Il s'agit donc de les rééduquer. Il n'est pas question de dialoguer avec des individus qui ne savent même pas qu'ils sont coupables et fautifs, qui ne savent même pas qu'ils sont misogynes et phallocrates, et à qui il faudra le dire pour qu'ils puissent savoir qu'ils le sont véritablement. Ce gauchisme culturel, dit Jean-Pierre Le Goff, est inquisiteur et justicier. Il traque les mauvaises pensées et traque également les mauvaises paroles. Il y a des logiques du politiquement correct qui fait qu'on dénonce. Tel individu a utilisé tel mot, telle plaisanterie sortie de son contexte est présentée comme raciste, xénophobe, etc. C'est-à-dire que partout, on voit du racisme, de la xénophobie, de la misogynie, de la phallocratie, de l'antisémitisme, avec le risque de ne pas voir l'antisémitisme quand il y a de l'antisémitisme, de ne pas voir la phallocratie quand il y a de la phallocratie, de ne pas voir la misogynie quand il y a vraiment de la misogynie. Si la misogynie, le racisme, etc. se trouvent partout, alors c'est plus nulle part. C'est nulle part repérable. Ce que nous dit ensuite Jean-Pierre Le Goff, c'est que le gauchisme culturel se veut le porte-parole des victimes de toutes les discriminations et de toutes les exploitations, c'est-à-dire qu'il faudrait exiger réparation, parce qu'on serait fils de ceci, arrière-petit-fils de cela, et qu'on aurait le droit de demander à l'État qu'il paye pour les grands-parents déportés, qu'il paye pour les grands-parents exploités dans les endroits où on utilise les gens de couleur, etc., etc. Et cette revendication, elle s'effectue, évidemment, au nom des opprimés, et qui pourrait être contre cette revendication, au nom des oubliés de l'histoire, et en réclamant non pas l'usage de la raison ou de la réflexion, mais l'usage du pathos, l'usage du sentiment, l'usage de l'émotion et de la sentimentalité, les bons sentiments. Personne ne peut aller contre ce genre de proposition, sauf quand on commence à réfléchir en se demandant ce qui motive ces propositions véritables. Le problème, et je conclurai là-dessus, parce que sur ce sujet, je souscris pleinement, Jean-Pierre Le Goff nous dit qu'il n'y a aucune réflexion aujourd'hui, dans cette gauche-là, sur ce qui produit le racisme, sur ce qui produit la xénophobie, sur ce qui produit la montée de l'extrême droite dans le peuple. Le peuple vote massivement pour Marine Le Pen, et la question n'est pas pourquoi fait-il ceci, le peuple, à savoir parce que la gauche l'a abandonné, mais il le fait, donc punissons-le, donc méprisons-le. C'est-à-dire que ce peuple-là, plutôt que d'essayer de savoir pourquoi il se comporte comme ça, eh bien, on le stigmatise. C'est le beauf, c'est le facho, c'est le réac. C'est celui dont on n'entend pas la voix, c'est celui dont on ne veut pas entendre la voix, parce qu'on n'a pas envie de s'entendre dire qu'effectivement, la gauche a renoncé à être de gauche et qu'elle a créé des leurres sociétaux dans lesquels tout le monde s'engouffre pour faire des débats de société en permanence et faire de telle sorte que les vraies questions, celles que pose Mélenchon, s'il faut le dire clairement, ou celles que pose le Parti communiste français, que ces vraies questions, eh bien, personne ne les aborde, personne ne veut ici colter, parce qu'effectivement, on y verrait que le problème, ça n'est pas Marine Le Pen, mais ce qui fait que les gens vont voir Marine Le Pen, c'est-à-dire le fait que la gauche, depuis 1983, a cessé d'être de gauche économiquement, a cessé, effectivement, d'enchanter ou de réenchanter la vie, que le chômage a augmenté, que la misère a augmenté, que la pauvreté a augmenté, qu'on n'a pas donné de travail aux gens, qu'on a humilié les pauvres, qu'on leur a rendu impossible la vie, qu'on les méprise. Et effectivement, c'est l'intérêt, me semble-t-il, du travail de Jean-Pierre Le Goff de nous dire que l'important, c'est de réfléchir sur ce qui rend possible le vote d'extrême droite plutôt que de stigmatiser le vote d'extrême droite. Il faudrait, si l'on voulait vraiment comprendre, considérer qu'il faut désormais réfléchir sur des questions comme la nation, l'immigration ou l'islam, qui sont des questions qu'il est interdit de poser. L'idée même qu'on puisse poser la question de l'identité nationale fait que on passe pour quelqu'un qui est contaminé. La fameuse lepenisation d'esprit qui fait que dès qu'on pose une question gênante, cette question est évacuée avec l'insulte qui fait qu'on n'a plus le droit de penser, qu'on n'a plus le droit de réfléchir, qu'on n'a plus le droit d'analyser. Dernière réflexion sur ce qu'il appelle les idéologies émiettées et la mentalité utopique. Il nous dit, Jean-Pierre Le Goff, que tous ceux qui prétendent vouloir ouvertement la liberté, la discussion, le débat, etc., sont des gens qui le refusent. Récemment, vous avez probablement entendu que Marcel Gauchet, qui avait été invité à Blois pour faire une conférence sur la rébellion, s'est trouvé insulté dans la presse, Libération en l'occurrence, sous prétexte qu'il ne serait pas un rebelle estampillé ou un rebelle légitime. Comme si, pour bien parler du cancer, il fallait être cancéreux. Comme si, pour bien parler de la prostitution, il fallait être une prostituée. On a le droit, comme c'est le cas de Marcel Gauchet, je ne souscris pas aux thèses de Marcel Gauchet, mais je pense qu'il vaut mieux quelqu'un qui analyse intelligemment la question de la révolte, même s'il n'est pas lui-même un révolté, qu'un révolté qui ne saura pas dire deux phrases ou faire deux phrases. Et l'idée qu'au nom de Bourdieu, qui reste un personnage majeur, massif pour moi et pour ma conception du monde et ma conception des choses, qu'au nom de Bourdieu, on pouvait interdire à quelqu'un de penser la rébellion sous prétexte qu'il n'était pas rebelle dans les formes infligées par le politiquement correct qui nous disait que la rébellion, c'était ceci, c'était cela, ça ne pouvait pas être Marcel Gauchet qui écrit dans Le Débat, qui publie chez Gallimard, ou etc., etc. Il faut écouter Marcel Gauchet, débattre avec Marcel Gauchet, être d'accord ou pas d'accord, en respectant les idées de Marcel Gauchet, en les critiquant au sens noble du terme, c'est-à-dire en les examinant et pas en les insultant. Même chose avec les autres penseurs, quels qu'ils soient. Conclusion de Jean-Pierre Le Goff, il nous dit « Ce gauchisme culturel veut produire une société nouvelle, avec un homme nouveau. » Et de fait, lisons ou relisons Orwell, c'est effectivement un danger majeur, me semble-t-il, et il n'a pas tort, Jean-Pierre Le Goff, de décrire ceci. Il dit une société, voilà ce que voudrait d'une certaine manière le gauchisme culturel, une société enfin débarrassée des scories du passé, réconciliée et devenue transparente à elle-même, un monde délivré du tragique de l'histoire, un monde sans frontières, sans haine, sans violence et sans guerre, pacifié et fraternel, mû par le souci de la planète, du plaisir et du bien-être de chacun. À l'échelle individuelle, cet imaginaire est celui d'un être indifférencié, un être sans dilemme et sans contradiction, débarrassé de ses pulsions agressives, bien dans sa tête et dans son corps, s'étant réconcilié avec lui-même, avec les autres et avec la nature. Et, qui plus est, autonome et citoyen actif de la maternelle jusqu'à son dernier souffle, citoyen du monde et éco-citoyen. Le Goff nous dit, c'est ce que le gauchisme culturel veut imposer ici et maintenant. Pas demain ou plus tard, mais ici et maintenant, par les moyens qu'il signale. Les autres séances seront consacrées à voir ce qui a nourri ce gauchisme culturel à partir de l'après mai 68, c'est-à-dire les travaux de Vincennes et de ceux qui faisaient Vincennes, Scherrer, Deleuze, Foucault, etc. Les pensées du structuralisme, ce qu'ont été les penseurs du structuralisme, les Barthes, les Deleuze, les Foucault, Claude Lévi-Strauss, etc. Ensuite, ce que les nouveaux philosophes ont fait aussi pour achever la gauche. Cette façon de dire la gauche c'est le marxisme c'est le goulag, donc la gauche c'est terminé, on ne peut plus être de gauche, donc soyons libéraux. C'était la thèse de Bernard-Henri Lévy dans La barbarie à visage humain. Donc les quelques séances qui suivront seront consacrées justement à voir quelles pensées au pluriel ont rendu possible ce gauchisme culturel et surtout ce nihilisme contre lequel s'opposeront ceux dont je vous ferai l'éloge, c'est-à-dire Misrahi, Jean Kelevitch et Michel Dufresne. Je vous remercie. Donc ce texte de Jean-Pierre Le Goff n'est pas encore à ma connaissance, mais intégré dans un volume qu'il aurait fait paraître depuis. Je vous rappelle son titre, « Du gauchisme culturel et de ses avatars », publié dans la revue Le Débat en septembre-octobre 2013. Jean-Pierre Le Goff a donc écrit « Mai 68, virgule, l'héritage impossible » et effectivement il explique que cette négativité de mai 68 a produit des délires qui sont des délires qui font encore la loi aujourd'hui et que si l'on veut effectivement penser mai 68, il faut penser la positivité qui aura été la destruction de tout ce qui était patriarcal, de tout ce qui était domination de l'homme blanc, mâle, etc., etc., mais que cette critique négative doit se doubler d'une affirmation positive avec des valeurs, des propositions. Il écrit également « La gauche à l'épreuve », c'est 1968-2011, et ce sont des chroniques extrêmement intéressantes qui, comme celles dont je vous ai parlé, analysent la gauche à gauche. Parce qu'il ne s'agit pas d'une critique de droite, il ne s'agit pas d'une critique réactionnaire ou conservatrice de mai 68 ou de l'état des lieux, mais que c'est une lecture d'une gauche qui nous dit « Eh bien, la gauche a perdu ses repères et ce n'est pas une raison pour dire qu'il faut abolir la gauche ou en finir avec la gauche, c'est une façon de dire « repensons la gauche à partir de ce que la gauche n'a pas fait ou de ce que la gauche a mal fait. » J'ai pas pris tout Jean-Pierre Le Goff. Il a écrit récemment La fin du village, ou un livre sur la fin du village, que c'est un livre que je n'ai pas lu, mais qui me paraît extrêmement intéressant. Je vous signale aussi La barbarie douce, publiée à la découverte, et qui est sous-titrée La modernisation aveugle des entreprises et de l'école. Travail extrêmement intéressant aussi. Un petit texte sympathique d'un personnage sympathique que j'aimais bien et qui m'aimait bien, mais qui est parti un peu trop tôt, qui s'appelle Jean-Paul Dolé. 68 arts joyeux, qui n'avait renoncé à rien, mais qui est mort un peu tôt à mon goût, et qui m'avait envoyé chez Germina, qui est un petit éditeur, un livre qui s'appelle « La joie des barricades », car il y a eu « Joie des barricades ». Et puis ce petit livre que je suis en train de lire, de Bérénice Levé, « La théorie du genre » ou « Le monde rêvé des anges ». C'est chez Grasset, et justement c'est une façon de penser la question du genre au-delà des invectives. En philosophe, c'est une jeune philosophe. Pour ce que j'ai lu, je trouve que le livre est vraiment très intéressant pour débattre sur cette question plutôt qu'insulter. Voilà la bibliographie.
C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, France Bleu Basse Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation Anne-Pascale Devigne. Demain, le cheval de Vincennes.